Tout commence là, in utero. Nous venons tous de là. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliers de milliards de cellules. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous sommes nés et nous sommes devenus des bébés. Quel bébé étiez-vous? Est-ce que vous vous en souvenez? Non. Hélas, non. Nous ne nous souvenons pas de nous bébés. C'est l'une des plus grandes énigmes de la vie. C'est comment d'être un bébé? Je m'appelle Zoé Varier et je vous propose de vous mettre à l'écoute des bébés. Et pour mieux entendre ce qu'ils ont à nous dire, peut-être faudra-t-il que vous fassiez appel à la part de bébé qui est en vous. Si l'on demande à une mère française à quel âge son enfant sera capable de tenir assis, elle répondra généralement autour de 6-7 mois. Pour la marche, ce sera vers 12-13 mois. Aux mêmes questions, une mère de l'Ouest africain donnera des réponses très différentes. 3-4 mois pour la position assise et vers 8 mois pour la marche. Comment peut-on expliquer ces différences de développement? Et ne faut-il pas repenser la notion même de développement telle qu'on la comprend ici, en Occident? Ce sont les questions que s'est posées Blandine Brill dès les années 80. Elle a donc décidé de voyager pour observer les différentes pratiques de maternage des tout jeunes enfants dans un village Bambara au Mali. Blandine Brill est anthropologue et directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales.
Je suis partie plusieurs fois un mois dans un village, toujours le même, qui était à, je dirais, une ou deux heures de mobylette, je ne me rappelle plus, de Bamako. Et où à l'époque, je y allais toute seule et c'était assez...
C'était l'aventure, non?
Ah, c'était franchement une aventure, oui.
Donc vous partiez sur votre mobylette et vous alliez vous installer dans ce village Bambara.
Alors je peux vous dire, avec, c'était le début, donc c'était dans les années 80, début, la première fois c'est en 80. Et avec tout un matériel vidéo, et je pense qu'on se rend absolument plus compte de ce que c'était, puisque moi je partais avec 50 kilos de bagages de vidéo, ce qu'on met maintenant dans son sac à main.
Et vous êtes installée, vous viviez avec les gens, et là vous avez observé comment les mères s'occupaient de leurs bébés.
Alors c'est pas moi qui choisissais les bébés, c'était le chef du village, hein, c'est lui qui m'indiquait les familles. Et je faisais de l'éthologie, c'est-à-dire que j'étais avec les mères et leur, avec le bébé, en fait, toute la journée. Alors comme à l'époque, les caméras, on ne pouvait pas filmer quand il faisait pas jour, enfin dès que dans la pénombre. Donc je les suivais à peu près du petit déjeuner le matin, où il commençait à faire jour, jusqu'à la tombée de la nuit. Et je notais, alors j'avais une grille d'analyse très précise, où je notais tout ce que faisait l'enfant, tous les aspects moteurs de l'enfant, c'est-à-dire non seulement avec qui il était, que faisait la personne avec qui il était, et ensuite, quelles étaient ses postures, quelles étaient ses activités motrices. Donc j'ai ça sur une dizaine d'enfants, du matin au soir, j'ai même eu les mêmes enfants d'une année sur l'autre, parfois. Enfin voilà, ça c'était une des parties de ce que je faisais, puis après j'ai travaillé avec les plus grands sur les apprentissages quotidiens, mais ça c'était les plus grands.
Dans ses films, Blandine Brill documente la vie quotidienne des enfants Bambara et des personnes qui s'en occupent. Et elle s'est demandé qui se met au rythme de qui? Est-ce la mère qui se met au rythme du bébé ou le bébé qui s'adapte au rythme de la mère?
Moi, je pense qu'il y a une adaptation réciproque. Et ça, je crois que c'est vraiment important. C'est le bébé s'adapte à son environnement, mais l'environnement s'adapte à lui. La mère, elle a 40 jours de repos. Après la naissance. Donc elle n'a pas à faire les repas, parce que c'est quand même énorme, elle n'a pas à faire le linge, tout ça est pris en charge par les co-épouses, donc elle s'occupe de son bébé. Donc il est clair que le bébé n'est absolument jamais seul, depuis le départ. Il est 100% du temps quasiment avec sa mère ou avec quelqu'un. Et justement, il y a cette espèce d'adaptation réciproque. Donc l'enfant, il dort là où est sa mère, donc il dort dans le bruit éventuellement. Et j'ai fait les calculs, j'ai comparé avec ce qui se passait avec la durée de sommeil ici. Et la durée de sommeil, c'est exactement la même. Alors qu'ici, un enfant, il dort dans un lit allongé, etc. Là-bas, ben, l'enfant dort là où est sa mère.
C'est-à-dire souvent sur son dos ?
Alors souvent sur son dos. Ouais, enfin, pas dans les 40 premiers jours. C'est là aussi, c'est intéressant. Dans les 40 premiers jours, ils dorment côte à côte sur une natte, là où est la mère, ou quand elles discutent, etc. Et donc, soit il dort au dos, à peu près 80% du temps de sommeil se passe au dos de sa mère. Les 20% autrement, sur les genoux ou par terre, à côté de la personne qui s'en occupe, de sa mère en général. Voilà, et donc ça correspond quasiment exactement au temps de sommeil de l'enfant occidental qui lui dort dans un lit tout seul dans un coin. Et ça, je crois que c'est vraiment important de se dire que ici on dit un enfant doit dormir, doit pas faire de bruit, etc.
Dans le calme, dans le silence calme. Là-bas, et dans la pénombre.
L'enfant, et ce qui est intéressant, c'est qu'il dort la même durée de sommeil dans la journée qu'un enfant qui dort. Donc ça remet un peu en cause toutes ces idées où il faudrait que ce soit calme, qu'il soit allongé, etc. Et la mère, alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à une époque, on disait, mais les mères africaines ne parlent pas à leur bébé. Et c'est là aussi où l'ethnocentrisme, on s'en compte, il est mauvais. C'est que, moi j'ai fait comme tout le monde, au début, il fallait regarder les enfants pendant les repas. Les interactions mère-enfant pendant les repas, c'est absolument pas ce qu'il faut regarder en Afrique, parce que pendant les repas, on ne parle pas, et donc on ne va pas parler à son bébé. Et pendant le bain. Pendant le bain, c'est pareil, on ne parle pas à son bébé, pendant le bain, c'est sérieux. Pendant le bain, c'est un moyen de savoir si ça va bien, ça va pas bien, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc on ne s'amuse pas dans l'eau. Donc, et c'est là aussi où on voit bien, les adaptations de la mère et de l'enfant ne sont pas du tout les mêmes. Là-bas, c'est permanent. Et les laps de temps où on fait la même chose peuvent être beaucoup plus courts. C'est-à-dire que si la mère travaille et que son enfant se met à pleurer, elle va s'arrêter. Le temps que son enfant aille mieux, le temps de l'avoir allaité, etc. Et puis, on va recommencer. Soit elle le remet au dos, soit elle le remet sur ses genoux, puis elle continue. Soit elle le donne à la grand-mère qui est à côté. Et qui, donc tout ça se fait en permanence, avec des changements beaucoup plus fréquents. Moi, j'ai regardé le nombre de changements de bras dans la journée, non pas de personne, mais de bras dans la journée, c'est au moins 3 fois plus élevé là-bas qu'ici.
C'est-à-dire le bébé, ça peut être aussi le petit frère ou la petite sœur qui s'en occupe.
Ou la petite nurse, là il y avait souvent ça, parce que moi j'ai appelé la petite nurse, qui était soit une grande sœur, soit une nièce, soit de la mère, et qui seconde. Alors à l'époque, les enfants, il y en avait très peu qui allaient à l'école. Et la petite nurse, elle était toute la journée, moi je me rappelle très bien, de petite fille qui était toute la journée avec la mère, et puis quand l'enfant descendait du dos de la mère, il était sur le dos de la petite nurse, etc. Donc il y a ces changements permanents. Et ça, c'est important dans le développement, c'est-à-dire c'est l'adaptation permanente à son environnement humain, d'abord, et puis physique aussi.
Depuis les années 60, on sait que dans certaines régions d'Afrique, les enfants présentent un développement moteur plus précoce que ce qui était et ce qui reste généralement admis en Europe occidentale. Marcel Geber était un médecin français qui a séjourné en Ouganda dans les années 60 et elle a été l'une des premières à souligner ces différences. Voilà ce qu'elle écrivait. Dès les premiers jours, le nouveau-né peut tenir sa tête, qui ne retombe pas en arrière. Et maintenu assis, son dos reste droit. À 1 mois, le petit Africain tient sa tête et sourit. À 3 mois, soutenu, il peut rester assis plus de 10 minutes. À 4 mois, il s'assoit seul sans soutien. À 8 mois, il se tient debout tout seul. À 10, il marche. Et à 11 mois, il est capable avec exactitude de prendre un très petit objet en pince entre le pouce et l'index. Et à 14 mois, il court. Pourtant, les normes occidentales de développement de l'enfant sont considérées comme universelles.
Quand on regarde la différence entre un enfant occidental et un enfant comme ceux que j'ai observés, la différence est incroyable, elle donne le tournis quasiment. L'enfant Bambara, comme j'ai vu, était 45% de son temps en mouvement, ce qui est gigantesque par rapport à un enfant français. En France, je sais plus, c'était 10 à 15% du temps en étant très sympa, en survalorisant, je pense un peu, les tout petits déplacements, etc. Là-bas, c'est tout le temps. Et puis on joue avec lui, par exemple, ces jeux que nous on avait appelés bouncing game. Ben on le fait sauter, comme ça.
Et c'est tout petit.
Ah, t'es tout petit, dès la sortie de la maternité. Et ça, je l'ai vu.
On le fait sauter, ça nous fait rire.
Ah ben, Et ça, c'était... moi, je l'ai vu. Et dès que vous arrivez dans une concession, enfin, donc vous passez la porte, s'il y a un bébé, vous êtes sûr qu'on va vous le mettre dans les bras. Ce qui est absolument pas le cas ici. C'est, ça n'a rien à voir, mais rien.
Dans les zones rurales du Mali, comme dans beaucoup d'autres endroits dans le monde, le bébé n'est jamais laissé seul. Mais il n'est jamais non plus le centre de l'attention. Le soin à l'enfant n'est pas une activité en soi, mais s'intègre au reste de la vie. Et au lieu de se concentrer sur lui seul en tant qu'individu, on l'intègre progressivement au monde commun.
Je suis toujours étonnée de, de l'ethnocentrisme de l'Occident. Parce que l'Occident, on représente, ses normes de développement, elles représentent 20% de l'humanité. Et on ne se pose pas la question de savoir si, ce qu'il en est ailleurs. Et ça, cet ethnocentrisme de notre société me paraît incroyable. Moi, je n'arrive plus à penser uniquement dans notre système sans ceci. Enfin, sans considérer qu'il existe 80% de l'humanité dont on ne parle pas. En France, par exemple, j'avais rencontré une puéricultrice qui s'occupait donc des familles ayant eu un enfant. Et un jour, elle me dit, une femme immigrée inquiète que son enfant à 4-5 mois ne s'assied pas. Et le médecin lui dit, mais non, bien sûr, madame, c'est parfaitement normal. Et une femme comme ça ne comprend pas. Et qu'il y a des problèmes de ce type-là, de compréhension entre cette médecine moderne qu'on impose quand même ici, sans prendre en compte ce qui peut se passer ailleurs, sans même savoir que ça se passe autrement ailleurs, pose des problèmes dans les cas d'immigration.
Ici, en France. Blandine Bril est anthropologue, psychologue et directrice d'études à l'EHESS. Pendant plusieurs années, elle a observé les pratiques de maternage des nourrissons dans un village Bambara au Mali. C'est un véritable tableau de la petite enfance à travers les gestes ordinaires qu'elle nous propose. Blandine Bril s'est intéressée, entre autres, à la question de la propreté. Les mères Bambara disent commencer l'apprentissage de la propreté dès 2-3 semaines de vie. C'est bien loin de ce que conseillait Françoise Dolto à la même époque. Archive INA de 1977.
Un enfant ne peut être mis sur le pot que quand il en a envie, c'est-à-dire quand est-ce qu'il va en avoir envie? Il va en avoir envie quand il voudra faire comme les grandes personnes, mais ceci, il ne pourra le faire que quand il va être déjà tout à fait acrobate, c'est-à-dire monter, descendre une échelle de ménage, et jusque-là, jamais, jamais s'occuper du caca d'un enfant. Ce qui est éducatif, c'est quand l'enfant désire faire comme l'adulte, qu'il fasse comme l'adulte, c'est-à-dire dans le lieu réservé à cela. C'est ça qui est éducatif, mais pas du tout de le mettre tôt sur le pot, c'est-à-dire de le dresser.
J'ai cru comprendre que dans le village où vous étiez, on éduque les enfants à la propreté dès quelques semaines de vie.
Dès quelques semaines. D'ailleurs, les femmes disent, elles sont très claires là-dessus, à partir du moment où l'enfant tient sa tête. Donc, voilà. Et puis, tout le monde le fait. Alors, c'est pareil aussi. C'est l'enfant, il est... d'abord, il est quasiment tout nu, quasiment tout le temps. Si... Donc là, c'est beaucoup plus facile. Ici, je ne vois pas qu'on puisse faire la même chose. Mais donc, l'enfant, il est mis sur les pieds. Et puis, moi, je l'ai vu faire par des petites filles qui faisaient ça avec leur petit frère, petite sœur. Et puis, bon, on l'encourage comme ça. Mais un enfant doit être propre à un an. Avec la marche. Et ce qui se dit, et là il y a eu un très joli article qui n'est pas sur le Bambara, mais sur l'Afrique de l'Est, fait par des anglophones, donc Afrique de l'Est, où on considère que l'enfant doit exprimer ses besoins, alors il faudrait peut-être trouver un autre vocabulaire, mais je ne l'ai pas trouvé, ses besoins à l'âge de 6 mois.
Exprimer ses besoins, c'est-à-dire
exprimer ses besoins.
S'il a besoin d'aller faire pipi ou caca. D'accord.
Voilà. Et en fait, on voit très bien, si on est éduqué pour ça, on voit très bien dans l'attitude d'un enfant, l'activité musculaire de cet enfant, dans ses mouvements, on voit très bien s'il a envie de faire pipi ou de faire caca, justement. Et ça, je trouve, c'est extrêmement intéressant parce que ça montre que les critères sur lesquels on se base sont des critères dont on a observé qu'ils existaient. Enfin, moi, je peux vous dire, c'est un enfant d'un an a envie d'aller aux toilettes. Hein.
Ça, oui, moi aussi.
Et c'est très intéressant parce que les jeunes ne savent pas, ne se rendent. Enfin, les jeunes, même les jeunes parents, non, disent mais comment tu le vois, enfin, etc. Alors que, moi j'en reviens souvent à ce que disait Dolto par exemple, qu'un enfant ne peut pas contrôler ses sphincters avant d'être capable de monter ou de descendre 4 marches d'escalier. Je trouve ça incroyable. Et ça a été colporté, moi, partout, dans les milieux de la petite enfance. Alors qu'il y a... Il n'y a aucune règle qui dit ça. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs justement, mon étudiante qui travaillait en Corée du Sud, il avait un enfant de 2 ans quand elle a fait son terrain. Et à 2 ans, il n'était pas propre. Donc, il avait toujours besoin de couches. Et quand ils sont allés donc, en Corée donc, pour son étude, tout le monde considérait que cet enfant, il devait avoir un problème de retard, etc. Et cette étudiante, elle me dit, mais là-bas, alors il y a des couches hein, là-bas qui étaient lavées enfin, dans le village où elle a travaillé. Qui avait, je ne sais plus combien, qui n'était pas très large et qui était très long. Mais elle me dit, mais on ne va pas laver ça pendant des années. Et c'est absolument la réalité. C'est une réalité purement pratique. Mmh. Et effectivement, là-bas, comme au Mali, un enfant doit être propre avec la marche.
Blandine Bril a observé et filmé le moment du bain. C'est un moment important dans la vie du petit enfant, mais pour d'autres raisons, que celles qu'on imagine ici. Dans ces vidéos, on voit comment les corps des bébés sont manipulés et c'est assez impressionnant. Le bain ne dure jamais plus de 5 minutes et c'est le seul moment de la journée où l'on ne répond pas aux pleurs des bébés.
Donc au Mali, donc alors le bain c'est très rapide, hein, c'est là aussi, ici on joue dans le bain, etc. Là-bas le bain c'est quelque chose de sérieux. Dans le village où j'étais, on baigne les enfants tous les jours. Hein. On les lave de façon très impressionnante parfois. Donc,
oui, du savon plein le visage.
Oui, donc il y a ça, et on les frotte avec des fibres qui doivent vraiment, c'est un peu du gant de crin si on veut. Et moi, une femme m'a dit une fois, mais oui, mais c'est là qu'on se rend compte si ça va bien. Quand l'enfant est posé, donc ventralement, par exemple, sur la main de la personne qui le baigne, on voit très bien s'il arrive à se redresser, si, et ça dès les premières semaines. Hein, on voit très bien comment va un enfant, et elles le disent, mais il n'y a pas de médecin.
C'est-à-dire à sa façon de bouger, à sa façon de réagir sur le fait d'être posé sur une main.
Parce qu'il est posé sur la main comme ça, enfin, c'est assez impressionnant, mais ça fonctionne très bien. Alors, donc, il y a le bain, et puis juste à la suite du bain, enfin, dans la foulée, là où j'étais, il y a vraiment des élongations. Très clair, les élongations des bras et élongations des jambes.
Donc on tire un peu.
On tire la main, on met la main dans le dos, donc il y a toute l'activité en fait.
De l'épaule et du bras.
L'épaule et du bras. Et les jambes, donc c'est un peu la même chose, mais c'est que les jambes sont rebattues, j'allais dire, sur le
visage du bébé.
Ensuite, on prend l'enfant par les pieds et donc on le.
La tête en bas,
et donc on le. Avec des secousses, en fait, etc. Mais c'est. Il y a des analogies avec l'examen du nouveau-né.
Absolument.
Il y a ça, et puis il y en a, ça va juste à les prendre par la tête, comme ça, et donc qui étire un peu le
et de les suspendre par la tête.
Suspendre par la tête, donc suspendu par les pieds, suspendu par la tête, suspendu par un bras, suspendu par l'autre. Mais c'est extrêmement rapide. Le tout ne dure pas plus de 5 minutes, c'est-à-dire le bain plus ça.
Et ça, on commence à faire ça dès la naissance.
Dès le 7e jour. Et ce qui est très intéressant, c'est que les mères Bambara disaient, mais oui, mais l'enfant, à la fin de la grossesse, il est complètement, il ne peut plus bouger. Donc il
faut replier.
Il est replié, ses articulations ne sont pas fonctionnelles, donc il faut l'aider à étendre, de toute façon que ses articulations puissent reprendre toute l'amplitude qu'elles doivent avoir. Et donc pour ça, il faut l'aider. Ça ne peut pas se faire tout seul, et ils en ont absolument besoin. Et ça, je pense que cette aide au développement, on le voit partout.
Massage du dos et du torse, étirement des membres, suspension par les bras, par les pieds, par la tête, et lancer de l'enfant pour terminer. Pendant longtemps, les chercheurs ont pensé que cette séquence de gymnastique n'existait qu'en Afrique de l'Ouest. Puis, ils ont découvert des pratiques ou traditions très proches aux Caraïbes, en Inde, en Tunisie, en Turquie, en Corée, en Indonésie, mais aussi dans l'Europe du Moyen-Âge. Et ça, vous l'avez vu?
Ah ben ça, moi, je
vous l'avez vu en Afrique de l'Ouest, vous l'avez vu en Inde.
C'est très proche. En Inde, c'est vraiment très proche, là
et
aussi.
En Corée,
il y a une gymnastique qui... Alors là, Pour en revenir au Mali, ça se fait les 40 premiers jours. Donc tout ça, c'est aussi un peu symbolique. Hein. 40 jours, c'est... dans l'islam, il y a beaucoup de laps de temps pour des rituels hein, qui sont de 40. Et donc en Corée, ça se fait, mais beaucoup plus longtemps. Donc jusqu'à plusieurs mois, en fait. Mais c'est moins précoce et c'est éventuellement moins vigoureux. Mais ça se fait, alors on fait fonctionner les articulations. Il y a une espèce de test, et ce qui est considéré comme un test, on met l'enfant debout sur la main et on regarde s'il est capable de tenir debout sur la main. Et ça a un nom, et c'est très intéressant parce que c'est considéré aussi comme une espèce d'évaluation du développement du tonus du bébé. Et c'est fait en général par quelqu'un qui arrive dans votre cour, enfin, par un visiteur ou une visiteuse plutôt. C'est une espèce, oui, de prise en compte sociale du développement du bébé. Et c'est pareil, au Mali, si quelque chose... Vous avez le droit, j'allais dire, enfin le droit. Là aussi, c'est des termes qui sont trop forts, mais vous pouvez dire quelque chose sur ce qui se passe sur un enfant, etc. Ce qui, ici, enfin moi, j'ai toujours considéré que c'est impossible. Vous pouvez rien dire. Et je trouve aujourd'hui encore moins qu'il y a quelques décennies. Ça ne vous regarde pas, à la limite, ici. Alors que là-bas, ça regarde toute la communauté. Et ça, c'est quelque chose aussi vraiment important. C'est pour ça, quand on dit, par exemple, les bébés qui sont portés au dos, il y a jamais de problème. Hein. Pourtant, on ne voit pas son bébé quand il est dans le dos. Mais s'il y avait le moindre problème, la personne d'à côté le dirait. Alors qu'ici, je ne suis pas sûre qu'on le ferait. Voilà, je pense que c'est important, mais ça a aussi des inconvénients. C'est qu'on est moins seul et on est moins... on est plus surveillé, c'est quand même ça. C'est par... Donc... Il y a du pour et du contre, j'allais dire. Enfin, c'est pas. Je veux absolument pas dire que c'est mieux dans un endroit. Et c'est là aussi où c'est extrêmement important, c'est que ce qui est bien, c'est ce qui permet à la société de. Enfin, là, dans ce cas-là, c'est à la famille, hein, de poursuivre, en fait, sa vie le mieux possible. Et donc, ça peut être des pratiques complètement différentes. Je dis pas du tout qu'il faille faire y avoir les mêmes pratiques que chez
dans les villages
du Mali,
ouais.
Ou. Surtout pas. Moi, j'ai d'ailleurs jamais changé mes modes de vie, malgré, enfin, même à la naissance de mes enfants. J'ai jamais essayé d'appliquer.
Dites-moi, Blandine Bril, donc vous dites, moi, je ne dis pas que c'est mieux là-bas, c'est mieux qu'ici. Non. Ce que vous dites juste, c'est qu'il y a différents critères de développement, différentes grilles de développement de l'enfant dans sa première année, et que le discours occidental ne peut pas être généralisé.
Voilà, mais moi, je partirais plutôt un peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a différents contextes. Et c'est les contextes qui vont rendre possible ou non, finalement, certaines... Et puis différentes conceptions de l'enfant aussi, différentes philosophies.
Dans l'épisode suivant de notre podcast, nous ferons un rapide tour d'horizon de la vie du tout-petit à Paris ou au Mali, du XVIe siècle à aujourd'hui. Les super-pouvoirs des bébés est un podcast documenté par Anna Massardier, monté par Karen Dehay, mixé par Basile Beaucaire et Baptiste Collion, réalisé par Josépha Lebrun et écrit par Zoé Varier. Les super-pouvoirs des bébés est un podcast original de France Inter.